VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque. 13h à Abidjan, 14h à Libreville. Bienvenue à notre journal. En Afrique du Sud, le Congrès national africain, l'ANC, au pouvoir depuis 1994, devrait annoncer ce lundi le nom du successeur de son président Jacob Zuma au terme de scrutin marathon crucial pour l'avenir du parti et du pays. Épilogue d'une campagne après serrée, cette élection oppose l'actuel vice-président Cyril Ramaphosa à la candidate soutenue par le président Zuma, son ancienne épouse et ex-patronne de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma. Le vainqueur de ce duel pourrait devenir dans 2 ans le président de l'Afrique du Sud à la fin du mandat de Jacob Zuma, si l'ANC remporte les prochaines élections générales. Ouvert tard dimanche soir après de longues heures de tractation sur le mode de consultation et la révision de la liste électorale, le vote des 4776 délégués du parti appelés à se prononcer ne s'est conclu qu'aujourd'hui à la mi-journée. Soutenu par l'aide modérée du parti et très apprécié des marchés, Cyril Ramaphosa, 65 ans, a vivement dénoncé la corruption du clan Zuma. Pour sa part, Nkosazana Dlamini Zuma, 68 ans, a repris le discours de son ex-époux sur la nécessaire transformation radicale de l'économie sud-africaine au profit de la majorité noire. Zimbabwe, l'état-major de l'armée zimbabwéenne a officiellement annoncé ce lundi la fin du coup de force qui a conduit le mois dernier à la fin des 37 ans de pouvoir de l'ex-président Robert Mugabe. Les forces de défense et de sécurité prononcent la fin de l'opération Restaurer la légalité, a déclaré le commandant de l'armée de terre, le général Philippe Valerio Sibanda, lors d'une conférence de presse. Les militaires sont intervenus dans la nuit du 14 au 15 novembre à Harare, la capitale, pour dénoncer le limogeage du vice-président Emmerson Mnangagwa. Leur objectif, empêcher la première dame Grace Mugabe de succéder à son mari, car c'est elle qui avait obtenu le départ du vice-président, considéré jusque-là comme le successeur en titre du président Mugabe. Placé en résidence surveillée, Robert Mugabe, 93 ans, a démissionné une semaine plus tard. Emmerson Mnangagwa a été par la suite investi président par intérim jusqu'aux élections prévues à la mi-2018. Au Gabon, les forces de sécurité ont procédé dimanche à plusieurs dizaines d'arrestations à Libreville, la capitale. C'est au lendemain d'une attaque à l'armée blanche qui a blessé 2 Danois. Le Conseil islamique du Gabon déplore cette attaque. Idriss Fall.
Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon a condamné l'attaque hier au couteau perpétré contre 2 Danois. L'imam Hosseini Ossa a rappelé que l'islam enjoint à tout musulman de respecter la vie. Il a demandé au gouvernement de réprimer l'auteur ou les auteurs de cette agression. Hier, la police et la gendarmerie ont bouclé le village artisanal, un marché pour touristes à Libreville. Tous les commerçants, presque tous originaires d'Afrique de l'Ouest, ont été conduits à la police pour interrogatoire. La veille, un Nigérien criant Allahu Akbar a poignardé 2 citoyens du Danemark. L'assaillant, âgé de 53 ans, vivait au Gabon depuis 19 ans. Selon les officiels gabonais, il dit avoir agi en représailles aux attaques des États-Unis contre les musulmans et à la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël. Mais jusqu'à hier, les autorités gabonaises n'avaient pas encore utilisé publiquement le qualificatif d'attaque terroriste ou djihadiste.
En RDC, un civil a été tué et un autre blessé dimanche lors d'une attaque de présumés rebelles ougandais des ADF dans l'est du pays. Le civil a été égorgé par les assaillants qui ont aussi tué un militaire, a déclaré un membre d'une organisation de jeunesse citée par l'AFP qui dit avoir été témoin de l'incident. Cette incursion des ADF en territoire congolais a lieu 10 jours après la pire attaque contre les casques bleus en RDC attribuée au groupe ADF. À ce propos, le président Joseph Kabila a reçu hier Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix, en visite dans le pays après cette attaque des ADF contre la base onusienne de Semouliki dans l'est du pays. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Les 2 hommes ont abordé ce qui s'est passé à Semouliki, a indiqué la MONUSCO qui a perdu 14 casques bleus tanzaniens au début de ce mois dans l'attaque de leur base dans le Nord Kivu. Monsieur Lacroix s'était rendu vendredi à Goma pour saluer les soldats qui ont survécu. Il a déclaré que la lutte contre les groupes armés représente un défi collectif que nous devrions relever collectivement. Il doit retourner demain mardi à Beni. Auparavant, le responsable des opérations de maintien de la paix était à Dar es Salaam pour un hommage aux soldats tanzaniens tués dans la pire attaque jamais subie par les Nations Unies depuis leur déploiement à RDC en 1999. L'entretien avec M. Kabila a aussi porté sur les élections prévues le 23 décembre 2018 pour la succession du président congolais. M. Lacroix a déclaré que sécuriser les élections est la responsabilité première des Congolais, mais l'ONU est disponible pour travailler en appui. L'opposition congolaise estime que M. Kabila n'a aucune volonté d'organiser des élections.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Togo, la coalition de l'opposition qui a manifesté samedi dernier se targue d'avoir mobilisé 1 million de personnes à Lomé, la capitale. Depuis 4 mois, les militants et sympathisants de l'opposition sont dans les rues, ce qui n'est pas sans incidence sur les activités économiques. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Tous les jours, qu'il y a marche. Si vous prenez l'avenue de la Libération, si vous allez un peu dans la zone de Décon, les magasins sont fermés. Avons-nous besoin de briser le commerce?
C'est un constat sur lequel revient le ministre de la Fonction publique Gilbert Barra, qui se demande s'il faut encore continuer les manifestations du moment où les avancées sont faites pour aller au dialogue. Selon le gouvernement togolais, une journée de manifestation constitue un manque à gagner de plus de 500 millions de francs CFA pour le Togo. Depuis 4 mois, les activités économiques tournent au ralenti, comme l'affirment ces commerçantes.
Nous avons un sérieux souci.
Tout ce que nous avons perdu, nous n'arrivons même pas à les quantifier. Qu'est-ce que nous pourrions faire pour que nos activités n'en soient pas aussi atteintes? Donc aujourd'hui, nous réfléchissons vraiment.
C'est vraiment, vraiment déplorable parce que nous craignons fort que nos clients nous quittent.
Samedi dernier, la coalition de l'opposition a tenu sa 20e manifestation de rue depuis le 19 août 2017. Kofi Agbenou, devant sa boutique, légèrement ouverte à Décon, dit comprendre le sens des manifestations.
Nous ne sommes pas là pour exposer ou bien pour vendre. Pour que la condition s'améliore, il faut que le pays même change d'abord. Et si on dit le pays change, il faut qu'on arrive à avoir une atmosphère plus tempérée. Et si les choses changent vraiment depuis le haut, nous aussi, notre quotidien aussi va changer.
Face aux accusations selon lesquelles la coalition de l'opposition veut asphyxier l'économie togolaise, Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition, se défend.
Dire que est-ce que nous avons décidé d'asphyxier l'économie togolaise? Non. Nous mobilisons les populations pour obtenir l'instauration de la démocratie et l'état de droit au Togo. Nous ne pouvons pas décider d'asphyxier l'économie togolaise. Nous sommes des Togolais. Ça fait des années, des dizaines d'années que l'économie togolaise est par terre.
Pour Olivier Kouami, de l'entente des spécialistes togolais en technologie de l'information et de la communication esthétique, il ne faut pas oublier les jours de blackout de l'Internet qui ont sérieusement porté un coup dur à l'économie du pays.
Selon une étude de l'ONG Access Now, une rupture d'Internet coûte à peu près 300 000 à 400 000 dollars US de pertes par jour pour un pays comme le Togo. 5 jours sans Internet, c'est 5 jours de léthargie. C'est 5 jours d'inactivité commerciale. C'est énorme.
Beaucoup d'opérateurs économiques souhaitent qu'une pause soit observée durant la période des fêtes, mais la coalition ne s'est pas encore prononcée clairement sur une tenue des manifestations lors des 15 prochains jours. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Au Cameroun, il y aura désormais un seul manuel scolaire inscrit au programme pour chaque matière, selon un récent décret du Premier ministre. Éditeurs, enseignants, libraires et responsables d'établissement s'en réjouissent. C'est le cas de Vincent Paul Lélé, responsable chez les éditions clés à Yaoundé.
Tel que ça marchait jusqu'à présent, vous verrez des distributeurs qui deviennent éditeurs, attirés certainement par l'appât du gain facile, parce qu'on a quelques personnes qu'on connaît dans la commission, qui, par des subterfuges, vont faire passer des ouvrages à la commission. Vous verrez les imprimeurs devenir éditeurs. Vous verrez les enseignants qui ont produit des ouvrages, qui s'auto-éditent et qui deviennent éditeurs. Vous verrez des inspecteurs pédagogiques qui sont parfois des auteurs et qui deviennent éditeurs. Bref, on se retrouve dans une sorte d'Eldorado où on retrouve tous les chasseurs de primes. Il y aura certainement un tamis qui va s'opérer. On pourrait voir émerger véritablement des gens qui se disent éditeurs.
Vincent de Paul Lélé à Yaoundé au Cameroun. Et pour terminer, ici aux États-Unis, l'aéroport d'Atlanta, le plus fréquenté du monde, reprend difficilement ce lundi une activité normale après une panne géante qui l'a paralysé pendant plusieurs heures. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.